Bonjour Bruno Lasserre.
Bonjour.
Vice-président du Conseil d'État, merci de nous accueillir au Conseil d'État pour ces 25e rencontre des acteurs publics. Cet entretien est enregistré car vous avez un déplacement programmé le 18 octobre et vous ne pourrez donc pas ouvrir en direct comme vous le faites habituellement. Vous avez un déplacement à Marseille, je crois, c'est ça?
Oui, je regrette bien de ne pas être avec vous. J'aime bien ces journées où toutes les portes sont ouvertes, nombre d'acteurs très très nombreux, très différents vient au Palais Royal et cela me fait toujours plaisir. Mais là, je dois être à Marseille pour visiter à la fois le tribunal administratif et la cour administrative d'appel. Donc je pense à vous et je souhaite un plein succès à cette journée.
Merci. Le thème de ces rencontres colle cette année encore avec le thème de l'étude annuelle du Conseil d'État consacré aux états d'urgence. Au-delà de l'actualité de la crise sanitaire, qu'est-ce qui a poussé le Conseil d'État à s'intéresser à cette thématique des crises majeures et de l'adaptation de notre action publique, de notre norme aussi, à ces périls?
Deux raisons. D'abord, il faut le dire et même le nommer. Depuis 6 ans, depuis les attentats de novembre 2015, on l'oublie parfois, mais la France a passé la moitié de ces 6 années en état d'urgence. D'abord antiterroriste, sécuritaire, puis sanitaire. Au point que certains disent, mais l'exception est devenue la normalité. Il faut donc s'interroger sur les raisons pour lesquelles nous avons vécu la moitié de notre temps en état d'urgence. La deuxième raison, c'est que, à la fois par sa fonction consultative, mais aussi sa fonction juridictionnelle, eh bien, cette étude pouvait faire fruit de tout ce que le Conseil d'État a fait et a pris de ces états d'urgence. D'abord, dans le contrôle des décisions prises sur le fondement des états d'urgence successifs, n'oublions pas le soin avec lequel le Conseil d'État a contrôlé, par exemple, les assignations à résidence, les perquisitions administratives qui ont été ordonnées pour lever les doutes ou rechercher les auteurs possibles d'attentats ou ceux qui pouvaient être tentés de les organiser. Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, nous avons reçu pour la seule année 2020 plus de 900 contestations en urgence portant sur tous les aspects de la gestion de la crise sanitaire. On a beaucoup agi, on a beaucoup appris. N'oublions pas aussi que dans notre fonction consultative, nous avons examiné les projets de texte entrant dans l'état d'urgence, les prorogeant, oui, mais enfin, ou tirant les conséquences de l'état d'urgence pour pérenniser un certain nombre d'outils jugés indispensables. Et là encore, au fil de l'actualité, nous avons beaucoup appris, nous avons aussi beaucoup influencé la fabrication de la loi. Il nous a semblé donc nécessaire de tirer un peu le bilan 6 ans après.
Alors, les états d'urgence, la démocratie sous contrainte, c'est l'intitulé de l'étude annuelle. À quel niveau de crise est-il opportun de déclencher l'état d'urgence? On en parle dans l'étude du Conseil d'État. On parle de crise majeure, mais est-ce qu'on peut la définir, cette crise majeure?
Alors, si l'on regarde les textes, qu'est-ce qu'on peut en tirer? La loi de 1955, qui a été le cadre dans lequel, on a paré au risque terroriste, définit l'état d'urgence comme devant répondre soit à un péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit de calamité publique. L'état d'urgence sanitaire, lui, vise les situations de catastrophe sanitaire qui, par leur nature, leur gravité, peuvent mettre en danger la santé de la population. Ce sont des termes qui font peur, mais qui sont en même temps assez imprécis, assez plastiques, qui donnent pas mal de place à l'interprétation. Et donc, derrière ces textes, que veut-on viser? Deuxième chose que je voulais dire, l'état d'urgence, c'est pas simplement adapter le droit à un fait imprévu et grave. C'est aussi, et c'est très bien expliqué dans notre étude, c'est aussi sonner la mobilisation, rassembler les Français, montrer qu'on a changé d'époque et imprimer quelque chose dans l'esprit des Français, sous-entendu on est là, on est au rendez-vous, on vous protège. Et donc au-delà de la fonction juridique de l'état d'urgence, se doter d'outils que le droit commun ne permet pas d'utiliser, il y a une fonction tribunicienne, une fonction politique qui consiste à montrer à la population qu'on protège, qu'on est au rendez-vous et qu'on a finalement changé d'époque. Et souvenez-vous des termes parfois guerriers qu'ont utilisés nos principaux responsables pour montrer, voilà, la mobilisation des pouvoirs publics. Alors la vraie question, c'est, voilà, derrière la plasticité des textes, derrière cette fonction d'appel, de mobilisation que remplit souvent la déclaration de l'état d'urgence, quel est le bon standard pour déclencher l'état d'urgence? Et c'est d'autant plus important que ce que nous disons dans l'étude, c'est qu'une fois qu'on est entré dans l'état d'urgence, et ça, c'est pas très difficile, c'est autrement difficile d'en sortir. Et donc, la réflexion doit porter quelles sont les bonnes raisons pour lesquelles on doit entrer dans l'état d'urgence. Et ce que nous disons, c'est deux choses. Un, on doit entrer dans l'état d'urgence, non pas en cas de menace, de péril, et notamment de péril permanent ou structurel. On doit entrer dans l'état d'urgence pour faire face à des crises à la fois intenses et aiguës, des crises soudaines. Et on peut imaginer évidemment des risques sécuritaires, des risques sanitaires, mais demain, ce peut être des cyberattaques qui, voilà, mettent à plat toute l'armature informatique, numérique du pays. Ce peut être les catastrophes climatiques dont on sait qu'elles arriveront un jour. La question n'est pas de savoir si elles se produiront, mais quand. Et donc, il faut à la fois avoir des conditions assez générales et plastiques, mais qui traite bien ce risque soudain et surtout temporaire. Parce que une fois qu'on est dans l'état d'urgence, passer du risque maximum au risque zéro, ça n'arrive pas. Et donc, encore une fois, l'état d'urgence doit répondre à cette nécessité de parer à une crise à la fois de haute intensité et très temporaire dans son déroulement. Deuxièmement, et c'est ce que nous disons dans l'étude, il faut entrer dans l'état d'urgence si le droit commun ne permet pas de répondre par les outils dont nous disposons aujourd'hui, ne permet pas de répondre à ces crises. Or, et c'est l'un des bénéfices de l'étude que nous publions, il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui, beaucoup d'instruments, beaucoup de dispositions qui peuvent être mobilisées. Et malheureusement, elles sont soit méconnues, soit peu évaluées et donc difficiles à mobiliser. Voilà les deux messages que nous pouvons passer. Réservons l'état d'urgence aux crises à la fois soudaines, aiguë et surtout temporaire, et surtout ne passons au régime d'exception que lorsque le droit commun ne permet pas de répondre avec efficacité au péril, à la menace à laquelle nous faisons face.
Parce qu'après, c'est très difficile d'en sortir, comme vous, comme vous l'avez signalé. Voilà, c'est ce qu'on lit
c'est
dans l'étude aussi.
Dire aux Français qu'on désarme, qu'on ne les protège
plus. C'est compliqué
plus.
À faire.
Et c'est compliqué pour les pouvoirs publics de faire passer ce message. D'autant plus qu'on le voit avec la crise sanitaire. Vous ne passez pas du risque maximum où tous les hôpitaux sont saturés, les lits de réanimation manquent, au problème où tout d'un coup, chacun peut être libéré de la contrainte. C'est une courbe lente, avec parfois des ressauts, des remonter. Et donc, voilà, comment tout d'un coup dire tout est fini, on a fermé la parenthèse, on passe à autre chose. C'est très difficile. Même chose, par exemple, pour le terrorisme. Voilà, on sait bien que voilà, les facteurs structurels souvent demeurent et que les risques ne sont pas éteints d'un coup. Et qu'en tout cas, l'état d'urgence permet de sonner la mobilisation, mais ne permet pas toujours de résoudre les causes structurelles de ces menaces, de ces risques.
Alors, autre point qui est abordé dans l'étude et qui nous a particulièrement intéressé, acteurs publics, on s'intéresse à l'organisation de l'action publique. De quelle manière faut-il réorganiser la puissance publique pour faire face aux crises majeures? Il y a un certain nombre de propositions dans l'étude.
Alors, d'abord, disons-le, les administrations publiques françaises ont plutôt bien résisté à la crise, ont fait preuve de résilience par rapport à d'autres pays. Je crois que on peut dire de manière générale que les administrations se sont mises en ordre de marche pour traiter ces crises successives. Et je tire mon chapeau, hein, parce que voilà, quand je pense notamment à toutes les structures de santé, on voit…
– L'État a tenu, avait dit le président de la République.
– L'État a tenu grâce à une formidable mobilisation des agents, des fonctionnaires à tous les niveaux. Et moi, je l'ai vu au Conseil d'État. J'ai beaucoup d'admiration pour ce qui a été fait. Le Conseil d'État a répondu présent, y compris dans la période du premier confinement où la plupart des institutions publiques étaient à l'arrêt. Et d'une certaine manière, Eh bien, cette crise a aussi révélé le sens de notre travail, le sens de notre mission. Et combien d'agents me disent, mais finalement, en réfléchissant à ce que nous devions faire, à ce qui était essentiel dans cette période difficile, nous avons retrouvé le sens de notre mission, le sens de notre travail. Alors, tout n'est pas parfait pour autant. Il y a clairement un besoin de davantage anticiper, davantage évaluer. Et là, nous retrouvons les conclusions de l'étude que nous avions faite sur l'évaluation. Le réflexe de l'évaluation n'est pas encore suffisamment présent. Et tout de même, parlons de la crise sanitaire. Elle n'est pas la première qu'a traversée la France. Il y avait la grippe aviaire, il y avait le SRAS. Qu'a-t-on appris de ces crises ? Quelle mémoire a-t-on gardé de ces crises ? Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a le sentiment que tout est à réinventer et qu'on n'a tiré aucune leçon des crises passées. Et donc, plus que jamais, l'anticipation, l'évaluation doivent être des réflexes sur lesquels on construit les politiques publiques. Deuxième chose, la coordination. Comment, je dirais, avoir à la fois un pilote dans l'avion, un commandement, et en même temps une coordination des administrations. Et là, nous faisons toute une série de recommandations. Nous pensons qu'il faut un pilote sous l'autorité politique du Premier ministre et du Président de la République, et nous identifions ce pilote comme devant être le SGDSN, qui nous paraît être bien placé pour assurer cette fonction de commandement. Mais au-delà, il y a tout un travail de coordination interministérielle à mener pour être sûr que toutes les administrations, mais aussi toutes les agences, et la création d'agences crée parfois des logiques verticales qui percutent un peu ce besoin de commandement central et cette vision transversale dont on a besoin en période de crise. Nous faisons toute une série de recommandations sur ce point. Enfin, il y a toute une réflexion à avoir en période de crise. Qu'est-ce qu'il revient à l'État ? Qu'est-ce qu'il revient aux acteurs ? Et quand je dis acteurs, je pense aux collectivités territoriales, je pense aux échelons déconcentrés de l'État, je pense aux entreprises, je pense aux associations et aux citoyens. L'une, peut-être, des leçons que l'on peut tirer de la crise sanitaire, c'est qu'on a beaucoup attendu de l'État, qui a d'ailleurs répondu présent, vous le disiez, l'État a tenu. Mais dans ce type de crise, est-ce qu'il ne faut pas aussi mobiliser l'initiative des citoyens, des associations, des acteurs économiques et sociaux ? Et il y a par exemple une réflexion à mener sur comment réorganise-t-on l'économie ? Je disais, voilà, dans la guerre de 14, on a reconverti des pans entiers de notre industrie pour l'adapter à l'effort de guerre. Comment se fait-il qu'en France, on ait attendu si longtemps pour produire des masques, c'est-à-dire des bouts de tissu réunis par des élastiques ? Il y a quand même une réflexion à mener sur la mobilité et l'adaptation aussi, non seulement de notre secteur public, mais de notre économie. Et c'est toute la question finalement de la fonction de l'État qu'on attend, d'un État stratège, mais d'un État qui doit recouvrer les fonctions de commandement sans nécessairement tout faire lui-même. Ça, c'est également important. Enfin, j'insiste sur un point aussi. Dans ces affaires-là, dans les crises de cette ampleur, tout le monde est acteur, et encore plus dans la crise sanitaire, où nous étions à la fois la cible des mesures qui restreignaient nos libertés, mais les acteurs de la victoire contre l'épidémie. Et donc, il faut aussi faire attention à ce que, voilà, reprise en main de l'État et la centralisation du pouvoir et cette fonction de commandement qui est nécessaire, n'annihile pas, n'endorme pas les citoyens qui ne sont pas des enfants auxquels le marchand de sable vient dire « tout va bien, vous pouvez dormir tranquille ». Il y a aussi une fonction de réveil, une fonction de remise en initiative de tous les acteurs, citoyens, entreprises, associations, qui ont aussi un rôle à jouer.
Alors sur le plan institutionnel de l'équipe des pouvoirs, l'état d'urgence se traduit par un renforcement considérable des prérogatives du pouvoir exécutif. C'est finalement d'ailleurs pour le pouvoir exécutif assez confortable de le laisser durer. Mais est-ce que là, on ne doit pas prévoir un rôle accru du Parlement ? plus qu'il n'a été, notamment dans la dernière...
De manière générale, le message que fait passer le Conseil d'État dans l'étude à propos des états d'urgence, sans doute sont-ils nécessaires. Nous ne pouvons pas vivre sans. Et d'ailleurs, tous les grands régimes démocratiques connaissent des régimes d'exception qui sont souvent inscrits dans la Constitution, dans la norme suprême de ces États. Mais il ne faut pas les banaliser, ça j'ai expliqué pourquoi. Il faut mieux les organiser. Et nous faisons toute une série de propositions sur ce sujet. Mais nous voulons aussi démontrer que les états d'urgence sont aussi partie prenante de l'état de droit. Ce n'est pas une mise en parenthèse de l'état de droit, mais au contraire une forme d'expression de l'état de droit qui doit savoir résister à des crises majeures. Et vous avez raison, l'état de droit, c'est d'abord l'équilibre des pouvoirs, l'existence d'un contrôle politique, et si l'exécutif est évidemment hissé au rang central parce qu'il faut un pilote, il faut un commandement, il faut un contrôle politique et aussi associer notre démocratie représentative aux décisions. Et donc nous faisons des propositions pour redonner au Parlement, et c'est en ligne d'ailleurs avec les rapports parlementaires sur le sujet, pour redonner au Parlement une place de première importance dans cet équilibre des pouvoirs. Et d'ailleurs, l'une des propositions que nous faisons, c'est d'inscrire dans notre Constitution l'état d'urgence qui aujourd'hui n'y figure pas, alors que paradoxalement, les circonstances exceptionnelles de l'article 16 ou l'état du siège sont inscrits sans qu'ils aient donné lieu à application depuis des décennies. Il nous semble que pour coller à l'esprit du temps, il vaudrait mieux inscrire l'état d'urgence, non pas pour rigidifier les conditions de son déclenchement. Encore une fois, la nature des crises peut être tellement diverse qu'il ne faut pas injurier l'avenir en définissant de manière trop rigide les causes de son déclenchement, mais en montrant justement que parce que la Constitution l'organise, cet état d'urgence est finalement une figure de notre démocratie représentative. Ça veut dire quel rôle joue le Parlement dans le contrôle du déclenchement, dans la prorogation et dans le contrôle de l'exécutif qui détient encore une fois le commandement.
Alors, le Conseil d'État, dans ses études, dans ses rapports, insiste depuis longtemps sur la nécessité pour les responsables publics d'agir, de prendre des risques, d'assumer leurs responsabilités. Ces risques, on le voit bien, sont très important, cette prise de risque est importante lorsqu'on est en situation de crise. L'étude annuelle souligne que la menace de poursuite pénale est un facteur susceptible d'obérer l'action des responsables politiques, mais aussi administratifs. Est-ce qu'il faut modifier le cadre de cette responsabilité ? Le Conseil d'État fait des propositions dans ce sens-là, même si elles ne sont peut-être pas politiquement correctes. Vous le dites dans l'étude.
Je ne sais pas qu'est-ce qui est politiquement correct aujourd'hui, mais peu importe. C'est pas...
L'idée de dire, attention, peut-être que... être sous la menace pénale empêche d'agir à un moment donné, c'est peut-être pas dans l'air du temps, c'est ça que je veux dire.
D'abord, nous l'avions déjà dit, nous avions déjà produit une étude sur la prise de risque, et nous avions évidemment étudié le risque pénal. Est-ce que le risque pénal favorise, au contraire, inhibe la prise du risque? Et nous avions d'ores et déjà, dans cette étude plus spécifique, fait des propositions, et dans le groupe de travail, il y avait des magistrats spécialistes du pénal qui nous avaient aidés aussi à forger toute une série de proposition. Enfin, quand même, soyons clairs, ce qui a frappé les Français, pas seulement vous et moi, et je ne sais pas si c'est politiquement correct, en tout cas c'est une réalité, c'est l'irruption du juge pénal en pleine crise. Ça, c'était nouveau. Que les hommes politiques rendent des comptes après la crise devant le juge pénal, nous le savions, nous l'avions vu. Mais que le juge pénal intervienne en pleine action, c'est-à-dire au moment où le gouvernement est mobilisé dans la lutte contre la pandémie, je dirais, avec des perquisitions, voire des mises en examen, ça c'est nouveau. Et je dirais simplement, nous sommes partis de ce constat. Nous n'avons pas à juger ou à porter une appréciation sur ces actions pénales, au titre général ou individuel, bien entendu, mais c'est une source de réflexion pour l'action publique. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de cette irruption spectaculaire du juge pénal, nous avons noté deux facteurs. D'abord, et c'est indéniable, que dans la répartition des rôles entre le président de la République, immunisé contre le risque pénal, et le rôle joué par le Premier ministre ou les ministres en charge, par exemple, de la Santé, on a bien vu que le risque pénal influençait la prise de décision. Deuxièmement, au niveau local. Et nous l'avons vu aussi parce que par les référés, les contestations en urgence portées devant le Conseil d'État, nous avons dû investir dans la compréhension très fine de ce qui se passait dans une prison, dans un EHPAD, dans un hôpital, dans un établissement pour handicapés, dans une école. Et soyons clairs, ce que nous avons vu, c'est la peur par les responsables de ces établissements du risque pénal, au point que dans les EHPAD, par exemple, alors que les directeurs connaissent leur communauté, connaissent les résidents, connaissent les familles, connaissent le personnel et sont capables de trouver la bonne balance entre finalement la protection des libertés et puis la protection contre le risque sanitaire, ils ont préféré souvent se réfugier derrière des instructions générales et souvent très détaillées, justement pour ne pas être exposés au risque pénal. Et ça, nous l'avons vu. Et d'ailleurs, dans certains cas, je pense par exemple au retour des visites dans les familles, c'est le Conseil d'État qui, en référé et en urgence, a enjoint au gouvernement de modifier ses instructions pour donner plus d'air, plus de responsabilité, plus d'appréciation fine, locale, aux responsables, par exemple, des EHPAD. Et donc, les propositions que nous faisons, il ne nous appartient pas, je dirais, de porter un jugement sur l'opportunité ou, évidemment, la solidité juridique de ce rôle du juge pénal qui est nécessaire. Il n'est pas question, évidemment, d'exonérer les responsables politiques de leur responsabilité pénale. Nous avons simplement fait trois propositions. La première, mais elle est cohérente avec ce qu'avait dit le Conseil d'État lorsqu'il avait examiné la réforme constitutionnelle, la première réforme constitutionnelle du quinquennat Macron, c'était la chose suivante. Une chose est d'être responsable pour les décisions qu'on a prises. Et dans ce cas-là, il faut les assumer, y compris devant le juge pénal. Diverses, différentes, est la situation dans laquelle un ministre et sa responsabilité est recherchée pour son abstention, pour le fait de ne pas avoir agi, de ne pas avoir fait remonter l'information qui peut être sommeillée dans ses services, de ne pas avoir prévenu un risque sanitaire, industriel, technologique. En quelque sorte, de ne pas avoir mis son administration en état de lui faire remonter un risque et d'avoir pris les décisions pour parer à ce risque. Et là, nous pensons que ce risque pénal doit être mieux défini à côté de la responsabilité administrative d'une part et de la responsabilité politique. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons que pour les ministres, mais pour l'ensemble des décideurs publics, la responsabilité pénale du fait d'une abstention, du fait de ne pas avoir agi, ne puisse être engagée que si le choix de ne pas agir, le choix de ne pas agir est directement et personnellement imputable à ce décideur. Et ça aura une vertu. Décider, c'est choisir, c'est arbitrer. Et les ministres ne peuvent pas tout savoir dans leur administration, mais inviter les collaborateurs, les administratifs, à présenter au ministre des options, en faisant en sorte qu'une fois qu'il a choisi, il est comptable de l'option qu'il a prise. Je crois que c'est vertueux pour la décision publique. La deuxième proposition que nous faisons, c'est peut-être de créer un comité de liaison, notamment avec la Cour de cassation, sur les questions urgentes qui peuvent se poser, de manière à se parler, d'harmoniser éventuellement la jurisprudence. C'est vrai, par exemple, que sur la question de la détention provisoire, on aurait pu davantage peut-être s'écouter, se parler pour unifier nos points de vue. Enfin, troisième proposition, à quoi répond aujourd'hui la demande pénale des citoyens ? Il y a clairement une insatisfaction par rapport à la décision, peut-être aussi un sentiment de défiance vis-à-vis de l'élite politique ou administrative, la volonté de rechercher des coupables à des causes peut-être qui ne sont difficiles à évaluer et surtout à imputer à une personne en particulier. Et donc nous pensons que dans cette demande, il y a peut-être aussi d'autres manières d'y répondre, d'écouter, de confier à un médiateur, de pacifier aussi la relation avec le citoyen. La saisine du juge pénal n'est pas la réponse à tout. Et il y a donc là aussi des propositions très concrètes que nous faisons.
Merci Bruno Lasserre, merci Monsieur le Président d'avoir répondu à nos questions, acteurs publics, et je vous souhaite à vous qui nous regardez d'excellentes rencontres des acteurs publics, les 25e ici au Conseil d'État. Au revoir, Monsieur le Président.
Au revoir, et je suis sûr que ces 25e rencontres seront réussies comme elles l'ont toutes été dans le passé.